peut-on jeter des milliers de flacons d'un médicament pour un simple défaut esthétique, parce que l'emballage est abîmé, par exemple, alors que la France est en pleine pénurie? Le laboratoire pharmaceutique mis en cause refuse de répondre, mais voilà le groupe GSK en pleine tourmente après des révélations de nos confrères de France 2 hier soir dans le magazine Cache Investigation, où l'on apprend donc que le seul producteur français d'amoxicilline, basé dans la ville de Mayenne, s'est débarrassé de produits qui auraient pu pourtant servir. Germain Treille.
Le 21 février 2024, deux ministres du gouvernement Attal visitaient l'usine d'amoxicilline, Catherine Vautrin pour la santé et Roland Lescure pour l'industrie. Ils avaient salué alors les efforts du labo de Mayenne d'augmenter sa production afin de répondre aux besoins du moment, le citant même en exemple. En contrepartie, GSK avait obtenu de l'État une hausse de 10% du prix d'achat des antibiotiques. C'est à cette période de l'année qu'une journaliste du magazine s'est fait embaucher à Mayenne, un emploi sur les lignes de contrôle des emballages des flacons, selon Cache Investigation. Pour mener son enquête sans être repérée, la reporter a filmé les locaux en caméra cachée, l'équipe de France 2 usant régulièrement de cette technique. La principale découverte, les flacons d'amoxicilline n'étaient pas destinés à la France, mais au Japon, un autre gros client de la société GSK, très exigeant, explique le magazine. Un léger défaut, comme une étiquette froissée, et c'est mis de côté, le médicament lui ne présentant aucun problème. 10 à 15% de la production aurait été ainsi sacrifiée, des milliers de flacons jetés à la poubelle, assure Cache Investigation.
Germain Treille, d'ici Mayenne pour France Info. Et bonjour Frédéric Bizard.
Bonjour.
Économiste de la santé, auteur du livre Les itinérants de la santé aux éditions Michalon. L'amoxicilline, on rappelle que c'est l'antibiotique le plus courant. On l'utilise pour soigner plein de choses, bronchite aiguë, infection urinaire, otite, etc. La France en manquait. On apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sources d'étonnement dans ce qu'on vient d'entendre. Mais on va revenir bien sûr sur les emballages. Mais d'abord, le fait que la production française soit destinée à d'autres pays comme le Japon, en pleine pénurie. Est-ce que ça, c'est une pratique courante dans les laboratoires ?
C'est même la pratique générale des laboratoires. Je rappelle qu'un laboratoire est souverain dans la distribution, le choix de la distribution de ses produits, quel que soit son lieu de production. On vit dans une certaine illusion, on l'entend souvent dans la population et au sein de l'État, c'est-à-dire de penser qu'en fait, il faut juste relocaliser les médicaments pour garantir une distribution suffisante. Il ne faut pas mélanger la notion de production qui est liée à une compétitivité des coûts de production, qui est liée à un environnement qui n'est pas simplement un environnement sanitaire, et puis la distribution des produits de santé qui est, elle, liée à un environnement sanitaire, notamment à une compétitivité en matière de prix.
Mais même en période de tension et de manque de traitement.
Oui, mais parce qu'il n'y a aucune obligation pour le laboratoire de distribuer suffisamment. Ça va vous paraître très étonnant, mais c'est une réalité. Il n'y a pas d'obligation ou d'engagement du laboratoire de distribuer suffisamment de produits par rapport à la demande. L'État impose au laboratoire de produire avec un niveau de stock suffisant, ce qui est une erreur. Enfin, on l'avait déjà dit, je crois, sur votre antenne, mais il y a vraiment une confusion de cette manière, et l'État est largement responsable de cette situation-là. On peut s'étonner, il faudra demander à GSK des explications plus précises, mais on peut s'étonner que l'État ne soit pas informé, par exemple, de ce qui se passe dans les usines de GSK pour savoir pourquoi est-ce que GSK n'est pas capable de produire suffisamment par rapport à la demande française. Donc, vous voyez, moi, je suggère un contrat de santé publique qui lie l'État avec les principaux laboratoires pour la centaine de produits, de médicaments qui posent problème, qui est à risque de pénurie. Et dans ce contrat, c'est un donnant-donnant entre un prix compétitif et une distribution suffisante.
Donc, sur l'histoire des emballages japonais qui sont très exigeants, donc le moindre bout de carton écorné, on jette le produit. Ça, c'est pareil, ils ont la liberté de le faire.
Ils ont la liberté de le faire. On connaît la culture japonaise extrêmement exigeante sur ces notions de qualité. Pourquoi est-ce que le Japon est un pays très important ? C'est que le Japon a plutôt une bonne image de la France, avec une consommation importante de nos produits de luxe, et notamment une image de qualité en France. Donc, pour GSK, je rappelle que le Japon est la population la plus âgée au monde, 125 millions d'habitants, dont 35% de plus de 60 ans.
Et c'est Frédéric Bizard, que c'est une perte aussi pour l'entreprise. Pourquoi ne pas d'elle-même se dire « je vais réemballer pour le marché français qui est moins exigeant ».
Ça paraît en effet extrêmement étonnant, mais où se fait cette sélection et le fait de se séparer de ces produits-là? Est-ce que c'est au Japon ou en France? Encore une fois, je n'ai pas suffisamment d'informations, je ne vais pas conjecturer sur des informations que nous n'avons pas. Mais si vous voulez, il y a trois erreurs françaises par rapport à la production et la distribution de médicaments. La première, c'est celle que je vous ai dit, c'est que produire en France ne garantit pas une distribution. Donc la relocalisation de produits anciens en France est une fausse bonne idée par rapport à ça. Donc il faut nouer des contrats de santé publique ou un autre dispositif, s'il y en a un autre de meilleur, qui garantit que l'État français est bien en contrepartie de prix compétitifs par rapport au reste de l'Europe, est bien une réponse à nos besoins. La deuxième, c'est on a une fausse route de notre stratégie française, qui, si vous voulez, on a une stratégie comparable à la stratégie américaine sans en avoir les moyens. C'est-à-dire qu'on veut relocaliser les produits anciens en France, on veut faire de la recherche et être compétitif sur les nouveaux produits, les biothérapies en France. Donc on dissémine notre petit budget d'investissement public, qui est de l'ordre d'1,3 milliard si on prend le France 2030, dans une multitude de projets. Au lieu de se concentrer dans ce qui doit compter dans un pays innovant, on a des atouts qui est d'être innovant, on est plutôt bon dans la recherche. Il faut qu'on concentre notre investissement sur quelques projets innovants et non pas la relocalisation de produits anciens.
Oui. Tous les pays... France 2030, c'est un plan de relocalisation de médicaments essentiels. Il y a 7 sites, je crois, 7 usines. C'est une erreur pour vous.
C'est une erreur. Non, mais c'est une erreur, bien sûr. Il faut se concentrer. Bien sûr qu'il faut maintenir ce qui reste compétitif. Nous avons une base de production extrêmement importante de produits chimiques. C'est historique. Mais il faut la transformer progressivement en conservant les produits chimiques sur lesquels on est compétitif. Mais il faut transformer notre base de production vers les produits innovants. Oui. Tous les pays développés et émergents sont capables, avec la même qualité que nous, de produire l'amoxicilline ou le paracétamol. On pourrait parler du paracétamol, c'est la même chose.
Mais juste cette affaire-là, Frédéric Bizard, Cache Investigation, a interrogé le directeur général de la Santé, le numéro 2 du ministère de la Santé. Il explique ne pas être au courant de ces faits. Il dit que s'il avait été informé, il aurait demandé à GSK d'alimenter le marché français avec ses produits jetés. Est-ce qu'effectivement, il aurait pu activer ce levier-là? Est-ce qu'il en avait les moyens vraiment?
Encore une fois, il aurait pu activer un levier. Vous savez, on peut, d'abord, à votre question, oui, il suffit de prendre un décret, comme le font des pays très autoritaires. Je rappelle que l'Inde a pris un décret pour interdire l'exportation des vaccins au moment de la crise Covid, qui était produit chez eux, pour prioriser la population française. Donc oui, on peut le faire, mais vous aurez des mesures de rétorsion dans d'autres pays. Donc ça, c'est une remise en cause du libre-échange sur lequel on peut revenir. En revanche, le labo peut, l'État peut obligé ou en tout cas fortement inciter le laboratoire GSK à respecter une quantité de production à destination de la France, encore une fois, que ça soit produit en Mayenne ou que ça soit produit ailleurs, c'est pas le sujet, mais en tout cas à garantir ce qu'on ait bien une réponse à notre demande.
Mais est-ce qu'il pouvait ne vraiment pas connaître ces pratiques? Ça peut paraître étonnant quand même.
Alors, tout à fait. Donc là, on voit un petit peu un État quand même avec très très peu de moyens, qui est pourtant dans la parole très offensive et souvent très agressive vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, à mon avis par erreur, parce que ça se répercute sur l'opinion publique. Je rappelle que l'industrie pharmaceutique, elle a un grand problème d'opacité dans ce qu'elle fait, mais c'est quand même une industrie qui permet de produire des progrès médicaux. Mais on voit bien que l'État, là-dessus, manque de dispositifs de contrôle. Je reviens sur la notion de dispositif de contrôle, pour pas simplement parler et menacer, mais pour agir. Je pense que l'État français devrait avoir un État permanent, ou heure par heure, en tout cas en vie réelle, de toute la production en France et de tous les stocks qui sont en France. Ça me paraît la moindre des choses, mais elle ne l'a pas.
Merci Frédéric Bizard pour votre commentaire. Économiste de la santé, auteur du livre Les itinérants de la santé, paru aux éditions Michalon. On en vient à Nicolas Sarkozy, à l'offensive pour clamer son innocence. L'ancien président de la République s'est exprimé hier après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris, où il est jugé avec 11 autres prévenus pour le financement libyen présumé de sa première campagne présidentielle en 2007. C'était sa première déclaration à la barre depuis l'ouverture du procès lundi. Bonjour Yannick Falt.
Bonjour.
Du service police-justice de France Info, l'ancien chef d'État a assuré n'avoir rien à se reprocher. Pour lui, il n'y a rien dans le dossier.
Et comme toujours, quand il est à la barre, c'est son cinquième procès au total. C'est un Nicolas Sarkozy bondissant qui s'adresse au tribunal. L'avocat de profession tonne.